Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, les GG en direct comme tous les jours, bien sûr, de 9h à midi. Vous avez raté les Grandes Gueules, vous avez les podcasts à votre disposition via l'appli RMC ou notre site internet rmc.fr. On a un nouveau sujet de discussion, vous allez arbitrer avec nous, vous allez y participer bien sûr en composant le 32-16. Il s'agit des médecins et des territoires appelés les déserts médicaux.
RMC.
GG, 7 et match.
On a 10 millions de Français qui vivent aujourd'hui dans les déserts médicaux. Ça fait un peu plus de 10% de la population. On a 3 mois d'attente, par exemple, pour un rendez-vous chez un spécialiste ophtalmo dans des départements comme la Corrèze, l'Ardèche, la Bretagne. Alors, on a ouvert le numerus clausus. Aujourd'hui, malheureusement, ça ne suffit pas. On tente de mettre en place des maisons de santé. Malheureusement non plus, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Du coup, revient aujourd'hui le petit refrain de dire il faut prendre des décisions fortes. L'une des décisions fortes, c'est d'obliger, à la fin de leurs études, des médecins à s'installer dans ce qu'on appelle ces déserts médicaux. Ce n'est plus la liberté d'installation. On doit passer à l'obligation d'installation. Alors, on a une équipe oui, une équipe non. L'équipe oui, c'est Joël Dagosséry et Étienne Liebig. L'équipe non, c'est Mehdi Ghezard et le docteur Ludovic Toro. La parole à l'équipe oui, il faut obliger. Une minute chrono, c'est parti, monsieur Étienne Liebig.
Alors, moi, je comprends que des médecins, jeunes médecins, n'aient pas envie de s'installer à la campagne. On a eu d'ailleurs des interlocuteurs ici médecins qui nous ont dit, moi, j'ai pas envie d'aller m'enterrer à la campagne. Je veux une très bonne école pour mes enfants. Je veux m'amuser avec mes potes au bistrot et je veux pas aller dans un désert. Donc je le comprends. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a quelque chose de très faussé là-dedans. C'est-à-dire que les médecins vivent de nos visites et ils vivent de l'argent de la sécurité sociale et des mutuelles aussi. C'est-à-dire que quand on va chez le médecin, on paye pas. C'est la sécu qui paye et ils sont payés par la sécu. En quelque sorte, ils sont payés par la collectivité et par les impôts, comme les profs ou comme les gendarmes, par exemple, ou comme les policiers. Et je trouve qu'à ce titre-là, comme les profs et comme les gendarmes et comme les policiers, ils devraient, les 5 premières années de leurs études, qui nous ont coûté en plus très très cher, ils devraient s'installer dans l'endroit où on a besoin d'eux pour une durée de 3 à 4 ans parce que je ne vois l'affaire va devenir de pire en pire et je ne vois pas pourquoi de jeunes médecins qui ont pris l'habitude de vivre en ville, là où il y a leurs études, de vivre dans des endroits sympas, des grandes villes, etc., avec des iraient dans un endroit où ils connaissent plus personne et où il n'y a aucun intérêt à s'y installer. Donc je pense que ça va devenir de pire en pire et ça suffit de leur donner du fric pour dire bon, on va vous payer la maison, on va payer l'ordinateur, on va vous payer, etc. Je propose qu'on les contraigne.
Ah ben c'est pas carton minute, jaune, t'as débordé 30 secondes.
Oui, tout à fait, j'en suis fier.
Docteur Toro, il a ses propres cartons, lui.
Ah, bah, pourquoi mais lui, c'est même pas un double ou un triple que je vais lui mettre, c'est un quadruple. Hein. C'est faire preuve d'ignorance du monde médical de tenir de tels propos en disant déjà ça coûte les études. Non, c'est plutôt les externes et les internes qui donnent gratuitement pour sans d'argent la gestion des hôpitaux aujourd'hui. Mais descendons un tout petit peu de vélo. Tout a commencé avec Juppé qui a décidé tout simplement de couper un peu l'herbe à tous les médecins parce que trop de prescriptions ça coûtait cher. Il s'en est mordu les doigts et il l'a dit très récemment. La problématique, moi il y a 40 ans il n'y avait pas de problème. Mais parce que tout simplement les différents gouvernements n'ont pas su anticiper. Et aujourd'hui, il faudrait porter la charge de tout ça pour des méchants médecins qui sortent à 32 ans, qui sont déjà mariés avec des enfants dans un endroit et qu'il faudrait envoyer quelque part. Mais la vérité, elle n'est pas là. C'est que tout simplement, en l'espace, depuis que Monsieur Juppé, on a pris exactement 13 millions d'habitants en plus et 6 ans d'années d'espérance de vie en plus. Et autre chose, aujourd'hui, les médecins veulent être salariés et ils veulent faire 35 heures. Si vous n'avez pas mis ça en tête, vous n'avez pas compris qu'il fallait augmenter le nombre de médecins. Le numerus clausus est une supercherie. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une supercherie. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que font les médecins? Ils sont fermés dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont à bas avec moins 30% de praticiens hospitaliers. Donc, quelle que soit la décision, on ne pourra pas prendre de médecins en plus de les former parce que les hôpitaux sont pas en capacité de le faire. Donc, arrêtons de cibler les médecins et ciblons les gouvernements qui n'ont rien fait depuis 30
c'est
ans
quoi ta
aujourd'hui.
Solution, alors
ma solution, elle est simple. C'est qu'il faut ouvrir. Je vais vous donner un exemple. L'URPS, l'Union régionale des professions de santé, a dit que pour rétablir à peu près le niveau de médecins, qui était à peu près, allez, on parle de 2010, il faut aujourd'hui en région Île-de-France 1500 postes ouverts.
On parle de la campagne.
Mais c'est pareil, la première région de désertification médicale est devenue l'Île-de-France il y a exactement 6 mois. Donc l'URPS et tous les autres avaient demandé 1500 postes d'ouverts. Qu'est-ce qu'a répondu l'ARS et le ministère de la Santé? Je vous en mets 60, ils sont montés à 100. Voilà la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne forme pas de médecins. On aurait dû voir l'évolution de la société. Le médecin, maintenant, on ne fait
ils
plus...
Ils étaient à Nice, les médecins les... formés. Pourquoi ils voulaient s'emmerder en
attends,
région parisienne?
Mais non, le truc aujourd'hui, c'est que le médecin ne fait plus 6h du matin, 23h. Il veut une vie. Les anciens médecins faisaient ça. Samedi, dimanche, c'est terminé. Les médecins ont le droit de vivre aussi, sans faire 35 heures, mais ils ont le droit de vivre. Ils n'ont pas anticipé cela. Et les médecins veulent être salariés. Tu me parlais de salariat? One again. Ah ouais. Mais attends, me dis pas
que écoute, c'est... alors tiens, ah,
s'il te plaît,
t'es mal placé,
s'il te plaît,
t'es particulièrement
s'il...
mal placé.
Non, s'il te plaît,
je vais te dire
tu me laisses
truc.
Finir. Tu me laisses finir. 75% des médecins veulent être salariés. Oh. Mais c'est l'ordre des médecins qui l'a. Arrête de mentir et de pas savoir.
Je te dis, mais laisse-moi répondre. Tiens, je te dis, aujourd'hui, par exemple, dans les CMS, dans les CMS, dans le centre de la sécurité sociale qui est à côté de chez toi, ils n'ont plus de médecins.
Écoute-moi.
Justement, ils sont salariés, ceux-là. Ils n'ont
mais c'est pas ceux-là. Mais c'est pas là qu'ils veulent travailler. C'est pas dans les CMS.
Ah, d'accord.
Ils veulent aller travailler dans des maisons de santé comme en Angleterre. Tu me parlais de l'Angleterre. Je ne parle pas des CMS, c'est pas là que se fait la médecine, c'est pas dans les CMS, c'est à peine 3% de la consultation.
Ils sont salariés néanmoins.
Mais c'est pas ce salariat-là qu'ils veulent, ils veulent un vrai salariat. C'est ça qu'ils veulent, dans 75%.
C'est quoi un vrai salariat?
Un vrai salariat, c'est avoir une fiche de paye comme en Angleterre. En Angleterre, ils sont payés par l'État.
Et combien la fiche de paye?
Mais on verra. Attends, ils sortent à 31 ans. Alors je vais te donner un exemple, puisque tu me provoques un peu. Je vais avoir 64 ans. Tu sais combien?
Tu les fais pas, hein.
Merci,
non, t'es en forme, hein.
Donc, je peux aller à la retraite. Tu sais combien est ma retraite?
Mais pourtant, t'as pris 25 euros quand tu piquais les gens,
Non, cher ami. Eh ben, tu vois, encore, tu sais pas. Je prenais 25 euros et je travaillais jusqu'à 22 heures.
Oui, et alors?
Alors, eh ben, je te donne la vérité de médecin généraliste.
Ben oui.
C'est la consultation la moins chère d'Europe. N'insulte surtout pas les soignants. On est les soignants les moins apeurés de toute l'Europe. Donc, je veux bien que tu dises des choses, mais vérifie-les.
Ben, moi, je vérifie.
Alors, vas-y, Joël Dagosséry.
Est-ce qu'on peut considérer, moi je suis vraiment entre les deux, hein, mais est-ce qu'on peut considérer à ce moment-là, Ludovic, que le médecin c'est la santé et que la santé fait partie de, je dirais, de l'aménagement du territoire global et que sans médecin, pas de population, pas de pharmacie, peut-être moins de personnes qui veulent s'installer, moins d'écoles, tout ça en fait, je pense que le médecin fait partie d'un environnement dont on a besoin. On a besoin de la santé. Donc, est-ce qu'on peut considérer que le temps que l'État, et après, là, j'ai vraiment pas confiance sur ça, mais je te le dis quand même, mais voilà, le temps que l'État puisse mettre en place les conditions, comme tu disais, qui favoriseraient l'installation des médecins, que des médecins soient quand même, enfin, entendent cette demande-là. De pouvoir aussi aller s'installer dans des territoires où il n'y a plus de médecins. D'ailleurs, par exemple, la Seine-Saint-Denis, où j'étais, eh ben, excuse-moi, mais on n'avait pas de généraliste. C'était très compliqué d'avoir un généraliste. Et pourtant, on était en ville, tu vois.
Mais Joël, le problème est là.
Micro.
Le problème est là, c'est que les gens pensent comme quoi c'est en campagne où il y a le plus grand problème. Le plus grand problème n'est pas en campagne.
Non, mais non.
Parce qu'en campagne, qu'on le veuille ou pas, il y a, c'est vrai qu'il faut prendre la voiture, qu'il faut se déplacer, c'est pas grave. Mais le plus grand problème en termes de délai pour consulter un médecin, c'est dans les grandes villes.
Oui, oui.
Et les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que quand on est dans les campagnes, on connaît le médecin du village ou le médecin du village
quand
d'à côté. Quand il y en a un, ou le médecin du village, ou de deux ou trois villages à côté, où il y a des centres, justement, où il y a l'hôpital de la région. Mais le problème, c'est ici. Quand tu veux voir un dermatologue en France, à Paris ou à Marseille, c'est 6 mois, ou à Lyon, c'est 6 mois d'attente, 8 mois d'attente. Un ORL, c'est 1 an d'attente.
Oui.
Mais vous vous en rendez pas compte, le problème n'est pas en campagne. Le problème, il est justement dans les grandes villes et il est dans les hôpitaux. Quand tu vois qu'un médecin fait des doubles gardes, j'ai un membre de ma famille très proche qui est médecin, il fait des doubles gardes consécutives. Vous imaginez ce que c'est? Parce qu'il me dit, il n'y a pas de monde, il n'y a pas assez de personnel. Donc ne me sortez pas en campagne alors que le nombre d'habitants est divisé par 10 ou par 15 par rapport à la ville. où il n'y a pas assez de médecins. Non, le problème, c'est le système. Le problème est plus général, c'est le système de santé qui ne produit plus assez de médecins, c'est-à-dire qui ne fait plus assez de médecins pour justement le nombre de personnes qu'on est en France.
C'est pas vrai.
Mais si, c'est vrai.
Mais bien sûr qu'il manque de médecins. Personne ne va dire le contraire. Mais ne me dis pas que les médecins...
À 9h, il est climatologue. À 10h, il est météorologue. Et à 11h, il est médecin. Et à 11h, il est médecin.
Mais c'est un médecin en face de toi. Mais c'est un médecin en face de toi. Mais c'est un médecin en face de toi. Mais alors, il est médecin, il est à la campagne.
Il est parti
s'installer dans un bled.
Il est
connu
mieux que toi.
Non, il est parti s'installer à
Couperin. Mais arrête.
C'est bon.
Mais
il y a du rouge. Je suis pas médecin, mais je suis malade.
Et justement, il y a du rouge, il y a du jaune. Et non, on écoute la réponse.
Je suis jaune pour l'instant.
La réponse.
Là, j'ai pas encore crié.
Je vais vous donner un exemple.
De Ludovic.
Je vais vous donner un exemple.
Vous avez vu, j'ai pas crié, Joël.
Attention. Tellement il y a manque de médecins, et les premières personnes qu'on va voir, c'est le maire, comme toujours. Vous savez ce qu'a fait le maire d'Orléans? Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a deux façons de faire médecin. C'est soit vous faites des études en France, d'accord, soit vous allez à l'étranger, au pays de l'Est. Notamment à Croatie, au Zagreb, d'accord. À Zagreb, vous y allez, vous faites vos études. Les Français y vont, les cours sont en français, et une fois qu'ils reviennent, ils sont truc. Qu'est-ce qu'a fait le maire d'Orléans, ce qui me paraît logique? Eh ben, la fac de Zagreb, elle vient à Orléans. Et veut former. C'est-à-dire que c'est les.
Attends,
pays...
comment?
Je t'explique. Aujourd'hui, le dépôt, il est européen et il est français. On s'est rendu compte que tous les Français allaient, beaucoup de Français, étudiants, vont à Zagreb pour avoir leur diplôme. Donc, qu'est-ce que fait? Ils ont fait une convention entre la mairie d'Orléans et la faculté.
Et donc, il y a des étudiants, y compris croates, qui viennent.
Non, non, c'est que des Français. Il y a exactement 60-70 Français qui vont être formés par l'université de Zagreb, par la Croatie, avec un diplôme, donc, qui est croate, mais qui sera reconnu et ils seront médecins français.
Mais pourquoi? Les temps d'études est le même ou il est plus court?
Il est pareil, sauf qu'ils ouvrent les portes. Nous, on n'ouvre pas. On ne peut pas
ouvrir les portes.
Alors,
ils ont le numerus clausus.
Mais le numéro.
Il n'y a pas de numerus clausus, alors.
Il n'y a pas. Mais le numerus clausus, c'est une foutaise.
C'est pas
parce
le problème,
que, parce que les hôpitaux, aujourd'hui, ne peuvent pas former des
absolument.
Médecins.
Absolument. Mais, donc, c'est 70 médecins qui vont être formés par l'université de Zagreb. Qui sont très bien.
Je sais ce que
ils vont donc aller s'installer en Bourgogne. Ils vont aller s'installer dans les
Non, tu ne connais même pas les dossiers. Je vais t'expliquer. Parce que la moitié de l'argent qu'ils vont payer va être payé par le maire d'Orléans et il s'engage à rester 6 ans sur place.
Tu es à Orléans, mais pas dans la Creuse. Hein.
Mais attends, mais c'est parce que donc ils trouvent des solutions que l'État n'a pas su mettre en place pour faire
mais
des
médecins. Mais
pourquoi? Mais parce que tout simplement, on a mis les hôpitaux à plat. Et
d'accord,
nous, notre
mais
mère,
pourquoi il n'y a pas de médecin généraliste dans la Creuse?
Mais
pourquoi
c'est partout.
Pas en Ardèche,
mais
il y a pas en Lozère.
Mais tu attends, vous rêvez.
Écoute, arrête chez moi, il y en a des médecins.
Arrête. Moi, médecin, quand je veux appeler moi pour avoir un dermato, même quand j'appelle directement, c'est 3 mois. Mais fais la réalité en région Île-de-France et pire en Seine-Saint-Denis. Mais attends. Alors, écoutez,
non. Non, mais il y a des villages. Écoute, il y a des villages.
C'est partout pareil en France.
C'est pas vrai.
Ça fait 30 ans que c'est comme ça.
Je trouve que vous êtes malhonnête. Franchement.
Malhonnête, et bien viens dans mon cabinet médical.
Il y a des endroits de France et j'espère que ces gens vont nous appeler.
Ils
y a
sont
des
là.
Endroits
ah bah
de France où il n'y a pas de médecin.
Bah tiens, justement,
alors,
oui, notamment en Île-de-France.
Attendez. On va prendre un exemple concret avec Emmanuel qui nous appelle de la Drôme.
Il n'y en a pas assez, mais il y en a.
S'il vous plaît. Emmanuel, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe.
Oui, il faut obliger les médecins.
Je suis très contente de pouvoir vous avoir. Je vous suis quotidiennement. J'apprécie beaucoup votre émission.
Merci Emmanuel.
J'interviens parce que en fait nous habitons un territoire qui est la Porte de Drôme Ardèche.
Oui.
C'est un territoire qui est hyper agréable, qui est hyper dynamique. Il y a beaucoup d'habitants, il y a beaucoup de gens de Lyon qui sont venus habiter ici. Donc il y a de la patientèle. Moi j'ai la chance d'avoir un médecin parce que je suis peut-être arrivée au bon moment dans la région, mais j'ai plein de collègues à moi qui n'ont pas cette chance. J'ai des collègues enceintes qui n'ont pas pu consulter pour des choses bénignes et qui ont dû se rabattre sur des services d'urgence qui malheureusement ferment puisque l'hôpital de Saint-Vallier n'est pas continuellement ouvert au niveau des urgences, donc c'est une véritable galère. Il faut savoir que chaque commune du coin, Saint-Sorlin en Valoir, Chana, sont des territoires qui sont super agréables à vivre. Je vous rappelle, on est à 60 km de Lyon. Hein. On est à 2 heures de la mer, on est à 1h32 de station de ski. On ne trouve aucun médecin.
Aucun, véritablement.
Il y a des cabinets
neufs
qui sont construits par les municipalités. Il y a des conditions d'exercice qui, je pense, sont plus qu'agréable. Je parle même pas de la Creuse, je parle même pas de la Seine-Saint-Denis, je parle de chez nous. Donc c'est un territoire hyper agréable, on ne trouve personne. Personne ne veut s'installer. Pour trouver des médecins, c'est une véritable galère.
Mais quels sont les délais, par exemple, Emmanuel, dont vous avez eu connaissance?
Alors moi, personnellement, je ne suis pas impactée, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai la chance d'avoir un médecin traitant. Par contre, moi, j'ai des collègues qui sont obligés de faire le 15, qui sont obligés de faire toutes les communes aux alentours. J'ai même une collègue qui n'habite pas du tout Tain-l'Hermitage et qui a été obligée de faire des kilomètres pour pouvoir se faire suivre, parce qu'elle ne trouve personne. Et nous, on ne comprend pas, en fait, parce que, si vous voulez, l'accès à Lyon, il est direct.
Elle est dans la Drôme.
Madame, je vais répondre. Moi, je vais parler de Coubron, puisqu'il me dit Coubron.
Non, mais réponds-lui, parce que là, c'est un territoire qui est plutôt agréable.
Mais oui, mais
à côté de Lyon, c'est la Drôme, on n'est pas...
Coubron, je ne sais pas si vous connaissez, c'est plutôt agréable, 80% d'espace vert, tout va bien. Nous étions 5 médecins il y a 2 ans, on ne se retrouve plus qu'à un médecin, et j'arrive pas à trouver aucun médecin pour venir dans cette ville.
Et comment tu l'expliques?
Mais parce que tout simplement, je l'ai dit. Non, c'est pas la campagne. C'est qu'aujourd'hui, les médecins, en fait, s'installent pas. La moyenne, c'est, ils font 5 ans, ils font des remplacements, ils font des choses comme ça.
Ça tourne.
Et parce que c'est trop lourd, la gestion d'un cabinet médical comme il est actuellement.
Okay.
C'est beaucoup trop lourd. Okay. On fait des tonnes de papiers, on fait pas de médecine.
Okay. Bah, excuse-moi. Voilà. D'accord. Dis les choses comme ça.
Mais attends, je dis les choses comme je veux, mais c'est un des trucs. Et autre chose, ils veulent en effet avoir, comment dire, une qualité de vie qui est différente d'avant. Mais globalement, je vous le dis,
je vois pas quelle qualité de vie pour
la
voir mieux qu'ici, hein.
Excusez-moi,
ils veulent des potes et des bistrots. Mais je pense qu'on leur fait des ponts d'or, hein. Donc
oui,
là,
je sais, mais
moi,
madame, il n'y a pas que l'argent. Alors, je vais vous dire.
Il n'y a pas que l'argent.
Alors, enfin, moi, il y a 30 ans, j'étais.
Il y a 20 ans. La qualité de vie, elle le dit,
j'étais conseiller départemental. Ok, la qualité de vie. Moi, je ne vous parle pas des banlieues, avec tout le respect que j'ai pour les personnes qui vivent en banlieue.
Non, c'est pas ça.
On est vraiment tranquille ici. Enfin, je veux dire.
Mais c'est pas la question de la tranquillité. Par exemple, je vous le dis, moi, j'ai des amis tout bib qui n'ont pas envie d'aller dans un endroit où il n'y a pas de copains de bistrot, où le vendredi soir, on boit pas des verres avec des copains.
Stop, je
c'est parce qu'ils ont pris cette habitude.
Moi, je vais vous dire la vérité, la caricature, on va l'arrêter. Quand vous êtes médecin, et moi j'ai une urgence, qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que je trouve une clinique à côté ou un hôpital. Quand vous enlevez toutes les cliniques et les hôpitaux en France, comment je fais? Moi, j'ai un plateau technique, c'est-à-dire j'ai appris, moi, dans ma fac, que quand il y avait un problème, il fallait une radio, un scanner soir, un IRM. Si je me retrouve au truc, et ça, c'est, on parle quand même, il faudrait parler un peu du ministère de la Santé. Il faut localement des endroits où tu peux prendre en charge des urgences. Et il y en a de moins en moins.
Okay.
Qu'est-ce que le fait le médecin? Le médecin, il arrive, il voit, il a une douleur thoracique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler un hélicoptère, alors qu'on aurait pu avoir un hôpital à 30 hypothèses. La problématique, c'est l'accès aux soins.
Okay.
Pas l'intermédiaire des médecins. Un médecin, ça veut faire son boulot. Si vous lui donnez pas les moyens de faire son boulot, il ne peut pas le faire.
Il les fera pas. On va continuer la discussion et je remercie Emmanuel d'avoir été avec nous, d'avoir fait valoir ses arguments. Alors, est-ce qu'on doit obliger, oui ou non, les médecins à s'installer
on va se faire taper
à la campagne?
C'est sûr qu'on va se faire taper.
Oui, non, attention. Regardons la consultation où on en est, s'il vous plaît. C'est un oui à 73%.
C'est lent, mais oui.
Et la discussion continue avec Leïla, infirmière du côté de Vaux-en-Velin dans un instant.
RMC. 9h30. Les grandes gueules. Alain Marchal. Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Je peux vous dire que là, pendant la pub, discussion sur l'obligation d'installation de médecins GG 7 des matchs, c'était encore plus haut en tension qu'en direct. Leïla, bonjour.
Calme-toi, t'inquiète.
Bonjour Leïla, une fidèle des GG. Alors, est-ce qu'il faut obliger les médecins, oui ou non?
Ben non, ça ne marchera pas, ce sera bien trop productif.
Nous vous aimons, hein.
Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous, les infirmières libérales, nous avons une cartographie des zones sur lesquelles on peut s'installer. Les zones bien dotées, c'est pas possible. Dotées correctement, c'est possible à condition qu'il y ait une infirmière qui parte. Et sous-dotées, vous pouvez vous y installer. Bon. Sauf que on peut contourner la chose. Eh ben, écoutez, je vais pas m'installer, je vais simplement faire des remplacements. Parce que pourquoi je cherche effectivement là où il y a des médecins? Parce que je travaille sur prescription. Je cherche là où il y a un plateau technique pour pouvoir envoyer mes patients en cas de problème, je cherche une qualité de vie familiale, des écoles, etc. Et soit dit en passant, le problème n'est pas simplement dans les campagnes, puisque moi, à Vaux-en-Velin, les Vaudais, à hauteur de 15%, n'ont pas de médecin traitant. Entendez bien, n'ont pas de médecin traitant. C'est-à-dire que moi...
Pourtant, on est dans une situation urbaine, hein,
à Vaux-en-Velin. On est dans une situation urbaine. Moi, très souvent, je suis obligée de me substituer au médecin parce que je n'ai pas de condition.
En tant qu'infirmière. Et alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils viennent pas, franchement?
Très sincèrement, alors, vous voyez, j'ai une étudiante en médecine en stage avec moi, vous voyez. Donc, voilà, j'ai pu échanger avec elle et elle me dit, m'installer, moi, non, je veux être salariée. Je veux avoir une vie de famille, je veux faire mes 35 heures, je ne veux pas travailler comme les anciens médecins, à savoir être dévouable corps et âme, parce que c'est terminé. Je veux avoir une vie, j'ai choisi ce métier
par conviction.
De confort, de se taper sur 24 heures, 12 heures par jour de boulot.
Je dis pas que c'est pas bien, je dis c'est une question
pas du confort, c'est de la vie.
On a choisi ce métier par conviction, certes, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être corvéable à souhait.
Mais
absolument. Tout simplement. Donc non, ce serait complètement contre-productif. Par contre, ce qui est très bien, c'est ce que le maire de Orléans, je crois, a fait. Effectivement, ces étudiants en médecine qui galèrent, que lorsque vous êtes en médecine, c'est très difficile d'avoir un boulot à côté, parce que c'est des études intenses, et ben pourquoi pas leur offrir un petit salaire pendant leurs études en échange de 5 ans.
Oui, mais alors, c'est intéressant ce que vous dites, Léla, et par rapport à ce que dit ce que disait Ludovic Toro sur l'initiative qu'a pris le maire d'Orléans. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, non mais il faut assumer les pouvoirs publics et le ministère de la Santé mettent en place une médecine libérale, c'est-à-dire ceux qui veulent s'installer en libéral, ils le font, et là où on a un vrai problème, on demande pas un accord avec les municipalités,
ça l'obligation
avec
de s'installer,
et on salarie des gens à ce moment-là, et on fait une espèce d'économie mixte.
Mais quelle économie,
tu vois,
je comprends pas,
tu dis toi-même, puisque
je comprends pas très bien, un étudiant en médecine il coûte quoi, j'ai pas compris.
Non, mais c'est pas ce que je te dis. Écoute, je dis simplement que pour pallier les déserts médicaux, après les libéraux, ceux qui veulent s'installer en libéral, ils le font.
Et les autres?
Et puis les autres, à ce moment-là, comme le maire d'Orléans, on passe des accords et on oblige et on salarie ce moment-là des médecins.
Mais je vous ferai remarquer que ça a déjà été proposé il y a 20 ans en Seine-Saint-Denis, quand j'étais conseiller départemental. On donnait 1 500 € dans les 3 dernières années de médecine générale. Et quoi, il y a eu 3%, parce qu'ils veulent garder cette liberté d'installation.
Oui.
Quand vous faites 10 ans d'études, d'accord, excusez-moi de vous dire ça, vous avez envie de vous installer, vous voulez. Et moi, ça me fait pas mal à la tête. Maintenant, la problématique, elle vient pas de là. Elle vient du manque de médecins. Puisque, tu en doutes, j'ai des chiffres là, d'accord? En l'espace de 10 ans, en région Île-de-France, on a perdu 1705 généralistes et 1910 spécialistes. Voilà la réalité des faits, d'accord, sur les chiffres. Donc, nous perdons régulièrement des généralistes et des spécialistes en région Île-de-France.
Mais pourquoi?
Parce que par manque d'ouverture.
Parce que la médecine n'attire plus.
Non,
à Nice, ils en ont beaucoup.
Mais il y a des
tout le monde n'est pas Nice
pour trouver un spécialiste.
Non, mais pourquoi il y en a beaucoup sur la Côte d'Azur?
Mais il n'y a pas que les personnes âgées. Il n'y a pas que ça.
Il n'y a que des vieux, en fait.
Mais non, il n'y a pas que des vieux. Attention ton micro, toi.
On a augmenté l'espérance de vie. On a augmenté je ne sais pas combien de millions d'habitants. Il fallait concevoir.
Oui.
Il fallait augmenter beaucoup plus le nombre de médecins, voire les doubler. On est resté sur le même truc, d'accord. Et du coup, on a en plus décentralisé la santé dans les grandes villes. Donc, quand tu vas dans la campagne, il faut pouvoir apporter la santé aux gens.
C'est pas ça la question, Ludovic. C'est la question qui nous est posée.
Merci, Leïla. À bientôt.
Eh ben non, il n'y en a pas assez.
Attends, faut-il contraindre pendant, par exemple, 4 ans ou 5 ans après que les études soient finies?
Alors,
faut-il contraindre des médecins des flics ou des professeurs
à
s'installer dans une zone où on n'a plus particulièrement besoin d'eux?
Oui.
C'est ça la question. Que les responsabilités gouvernementales existent, personne n'en doute.
Qu'on manque
de médecins, personne n'en doute. Que quand t'es médecin, et si j'étais jeune médecin, effectivement, je préférerais aller m'installer à Biarritz.
Mais ils vont pas à Biarritz. Tu donnes une image du médecin qui vont tous dans la Côte d'Azur à Biarritz. Moi, je vais te dire une chose.
Il y a 30 ans,
il n'y avait pas de problème.
Mais c'est ça.
Et il y avait un médecin. Laisse-moi finir. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de problème. Ça s'est accentué depuis 30 ans. Aujourd'hui, donc, c'est les médecins qui devraient payer cette erreur gouvernementale des ministères successifs. Mais c'est une blague. Ah, donc, dès que ça va merder dans les ministères, ce sont la profession qui devrait s'adapter. Eh ben non, c'est au gouvernement de s'adapter et à gérer.
Tu l'as dit.
T'as raison, s'il y avait une mesure temporaire?
Mais il n'y a pas de médecin, il ne peut pas y avoir de temporaire.
Il n'y a pas de temporalité, les enfants.
Je vous ai donné les chiffres.
Il n'y a pas suffisamment de candidats.
Vous allez enlever là pour le mettre là.
La campagne s'est désertifiée depuis 15 ans, là où tu dis il n'y avait pas de problème. Depuis, la campagne s'est. Alors peut-être qu'elle va se redensifier, mais elle s'est beaucoup désertifiée. Donc je suis persuadé quand même que les médecins choisissent de s'installer là, et ils ont raison de le faire. Si j'étais à leur place, je ferais la même chose. C'est-à-dire là où ça m'arrange le plus demain. Installé parce que il y a des tas de trucs plus agréables plus agréable à vivre que de vivre dans un endroit paumé. Et je comprends qu'ici,
mais quand tu vas dans un endroit où il n'y a plus de poste, où il n'y a plus de police, où il n'y a plus de transport, regarde le centre de la France, dont il faut des décisions gouvernementales de décentralisation, mais et le reste suivra au-delà de la médecine.
On est d'accord, on est d'accord.
Donc ne faisons pas reporter la faute sur les soignants et les médecins d'une incapacité, d'une incompétence gouvernementale et ministérielle.
C'est de la gestion de territoire.
Mais bien sûr,
on partage, sauf qu'on a des situations d'urgence. Il n'est pas normal que des gens en Ardèche ne puissent pas se soigner.
Mais c'est pas normal. Mais bien sûr. Mais je te dis que la solution ne vient pas de forcer les médecins aujourd'hui à aller là, parce que ceux que tu vas prendre là, tu vas les enlever là, tu vas les enlever de Seine-Saint-Denis. C'est pas possible. Même si tu m'en passes, tu me fais une caricature de ceux du sud, ça suffira jamais. Vous vous rendez pas compte du manque
Fred
de médecins.
Fred est avec nous. Fred, bonjour.
Ouais, bonjour, les GG.
Vous nous appelez de Lille. Où on écoute, on écoute RMC sur le 103.3, si je ne m'abuse. Mon cher Fred, alors, est-ce qu'on oblige les médecins, oui ou non?
Bah, la solution, elle est globale. Hein. Dire aujourd'hui, on oblige les médecins, c'est vrai que ce serait la solution, à mon sens, la plus adéquate dans l'urgence. Mais comme disait M. Taureau, je suis entièrement d'accord avec lui, le problème, il est au niveau du numerus clausus, et vous n'allez pas former des médecins en mode micro-ondes en 15 jours, 3 semaines. Vous pouvez pas imposer à des gens d'aller s'installer dans des coins où il y en aurait vraiment besoin s'ils sont pas là et s'ils sont pas formés. Donc déjà, ça c'est le premier vrai problème. Donc je pense qu'en amont, il faudrait surtout revoir, mais après ça c'est vrai que ça demande du temps, vous réglerez pas le problème ici en un an, deux ans, c'est comment on fait aujourd'hui pour augmenter et puis pour reformer des médecins et surtout derrière, leur inciter à vouloir aller s'installer là-bas. Parce que de toute façon, imposer, ça ne fonctionnera pas, ou à court terme, il faut inciter et donner envie aux gens. Moi, je sais pas, on est tous pareils, quelle que soit notre profession. On bosse aussi, dans la médecine certainement, pour le côté, le plaisir de soigner les gens et tout ça, mais il y a une réalité, c'est qu'on vit aussi et on travaille aussi pour l'argent. Moi, je vois aujourd'hui, je travaille dans l'industrie pharma, je suis au contact direct avec beaucoup de généralistes. C'est quand même pas normal dans ce pays, je suis désolé qu'un généraliste soit payé 25 balles pour une consultation.
Merci beaucoup. Voilà.
C'est ça.
Le type, il fait bac plus 8, bac plus 10, il est payé 25 balles consultation.
Mais bien sûr, oui,
Et dans les déserts médicaux, il va en faire combien? Il va en faire 50? Il va faire aussi les vaches et les taureaux avec? Non, mais arrête de foutre de la gueule des gens, Étienne. Arrête, c'est réducteur ce que tu es en train de faire. C'est réducteur ce que tu es en train de faire, Étienne. C'est réducteur. Le type, il fait bac plus 8 pour toucher 25 euros au fin fond de la campagne pour prendre 5 personnes ou 10 personnes. Mais c'est peut-être pour ça qu'il y va pas. Alors revaloriser quand tu dis que c'est. Je sais pas, je suis pas médecin. Voilà, je sais pas. Mais si quelqu'un qui va à la campagne, qui prend des risques, qui n'a pas la clientèle,
Non, c'est nous qui payons la Sécu, c'est nous. Arrête de dire c'est la Sécu. Mais là, attends, c'est pas seulement les médecins, c'est les soignants, les aides. Tout le monde, c'est moins payé que le reste de l'Europe. Donc déjà, on réévalue. Ça sera une des solutions. Mais la deuxième, ouvrons les portes. Ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faut mettre plus de médecins. Ils l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que pour faire un médecin, il faut 10 ans. Et l'élection, c'est tous les 5 ans. C'est seulement pour ça.
Ça coûte cher aussi pour faire un.
Mais ça coûte quoi, un médecin? L'externe, il traite, il est aux urgences. Oui. L'interne, il traite en quatrième année. Oui. Ça rapporte. Si vous enlevez aujourd'hui les externes et les internes des hôpitaux,
bien sûr,
vous fermez.
C'est vrai dans beaucoup.
Donc aujourd'hui, les externes et les internes que vous payez à coups de lance-pierre font tourner les hôpitaux. Il y a 30% de praticiens hospitaliers en moins dans les hostos. Enlevez-moi les externes et les internes, donc je le dis très clairement, externes et internes, vous n'êtes pas assez payés et vous faites vivre votre santé en France.
Merci à Fred d'avoir lui aussi alimenté notre discussion. Fred. C'est terminé. Est-ce qu'on doit obliger les médecins à s'établir à la campagne, enfin ce qu'on appelle les déserts médicaux? C'est quand même un oui, il y a un souhait à 72%. C'est ta première défaite peut-être, Médiguéza. Oui, 72%, 28%, c'est une victoire. Une victoire. Avec panache, de conviction.
Oui, avec panache.
Avec
démagogie.
Et Étienne Liébi.
Avec beaucoup de
dans
démagogie.
Un instant, Jean-Pierre Nadir, cofondateur de Fermou, fondateur d'Easy Voyage, l'homme de qui veut
gagner des millions.
Qui veut
gagner
25 de qui veut être mon associé gagner. L'émission sur M6. Il sera avec nous dans un instant.
J'aime bien allez, rigoler. Oh
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui le docteur Ludovic Taureau, il est maire de Coubron en Seine-Saint-Denis. Nous sommes avec Mehdi Ghezard, chef d'entreprise, garagiste et aussi restaurateur. Mais il sépare les deux professions quand il sert, hein. Quand il sert les plats. Tiens, il y a un carbu salade là. Ah non, je me suis encore trompé.
Des frites à l'huile
W40. Etienne Yebig, éducateur, est avec nous. Joël Dagosséry.
On a largement gagné la bagarre tout à l'heure.
Ouais, qui est coach de vie.
Première victoire d'Etienne Yebig de son.
Et on accueille notre invité, s'il vous plaît.
Il va pas dormir ce soir.
Et Joël, pas un mot sur Joël.
Si, j'ai dit Joël Dagosséry, coach.
Les grandes gueules.
Il est, ça fait longtemps qu'il vient dans les grandes gueules, c'est une grande gueule lui-même. Le grand public a appris à le connaître avec l'émission d'M6 qui veut devenir mon associé. Bonjour Jean-Pierre Nadir.
Bonjour Alain.
Un mot sur cette émission d'M6, elle reprend ou pas là?
Oui, on va tourner la saison 3 là en septembre, donc avec à peu près la même équipe. C'est-à-dire Marc Simoncini, donc qui est un peu la vedette de l'émission, qui incarne la Fresh Tech, qui sent bon le sable chaud, donc qui est le beau gosse de l'émission. On a en version plus jeune, on a Bourbon, donc le patron de Feed. Et puis ensuite on a Delphine André, donc qui est une grosse réussite dans le monde, donc du transport. L'archevêque qui a créé une licorne, donc Ledger, qui est une des grandes licornes françaises, donc les coffres forts Ledger. Voilà. Et puis moi, on se demande ce que je fais là, mais je me débrouille.
T'as ta gouaille et t'envoies baigner du monde.
Oui, mais après, il faut investir. C'est-à-dire que le problème de l'émission, c'est que les jeunes qui viennent et qui passent, eux, c'est pour trouver de l'argent.
Alors, il y a eu des réussites.
Pour trouver du mentorat, etc. Écoute, moi, j'ai fait deux gros investissements. Donc, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Biotimix, qui fait des robots et qui envoie des produits pour faire tes produits de beauté toi-même. Donc, le marché du on fait soi-même. C'est une très grosse réussite parce que l'entrepreneuse est géniale et que le concept est très bon. Et puis, j'ai investi dans une boîte, donc, qui commence à être un peu connue, qui s'appelle Papépille. Voilà, qui est Michel et Augustin. Donc le nouveau Michel et Augustin, qui est un couple en fait qui d'infirmiers qui a vendu sa baraque pour créer sa boîte et qui fait des petites billes, des petits gâteaux en forme de billes et qui est exceptionnellement
très
fort
bon
sur les réseaux sociaux.
Très,
voilà.
Très bon
voilà, com. il est exceptionnel, c'est même pas qu'il est très bon, c'est qu'il est exceptionnel. Voilà, c'est-à-dire que le gars c'est une bête de scène, il occupe l'espace tout le temps, il va à un salon, il croise Macron, il a trois ministres qu'il convie donc dans la foulée, l'autre jour, il a chopé le patron de Total, il est distribué dans tous les services de Total maintenant. Enfin voilà. Ouais. Donc c'est mes deux gros investissements et puis j'ai aussi fait l'investissement donc Ashley Tayeb qui elle fait une application donc pour lutter contre l'addiction qui était une histoire très forte puisque c'est en fait quelqu'un qui a connu une addiction dont normalement on ne sort pas, qui s'en est sorti à la force du poignet parce qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a voulu sauver son enfant. Et bon voilà. Et donc c'est une émission où il y a un peu de tout. Donc il y a du business, il y a de l'émotion.
Ça cartonne en audience en plus.
Oui, hein. Alors ça cartonne surtout sur les 18-35, c'est ça qui est formidable. Donc, ouais. Donc M6 a été premier.
Donc ça veut dire qu'il y a une jeunesse aujourd'hui qui en France veut entreprendre, veut créer.
Très bonne conclusion.
Oui.
Ouais, et bien sûr, ça veut dire qu'il y a, et d'ailleurs ces jeunes, si tu veux, on a un peu de tout. Donc évidemment, on a le couple très normé. Lui est ingénieur, elle a fait d'école de commerce. Ils viennent avec des slides super établis et ils déroulent leur jeu. Donc à la Steve Jobs, puisque maintenant tout le monde vient avec son why, sa raison d'être, etc. Et donc il y a toute une structure d'organisation. Et là, on reconnaît un peu les écoles de commerce. Bon, mais après, il y a plein de gens qui viennent de tout horizon, et y compris des gens âgés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des boutonneux post-pubères qui rêvent effectivement donc à la grosse réussite à l'américaine. Il y a aussi des gens qui se relancent. On a eu un cas d'un libraire pardon, donc de plus de 50 ans et Eric l'archevêque a investi chez lui donc parce que le discours était à la fois donc émouvant et en même temps très porteur.
Justement, toi tu restes un entrepreneur.
Oui. Alors très important, moi je suis pas un investisseur.
Non.
Je suis un entrepreneur qui investit donc dans un certain nombre de start-up, j'ai une vingtaine d'investissements mais je reste effectivement fondamentalement entrepreneur.
Entrepreneur dans le secteur du tourisme, c'est toi qui avais créé Easy Voyage. Là maintenant c'est Fairmove.
Exact.
C'est simplement pour dire on peut voyager écolo.
Ah bah, en tous les cas, c'est ce qu'il va falloir démontrer. Tu vois, toute la question posée, c'est comment on réinvente le tourisme autour des grandes considérations de l'époque. Et donc, le tourisme responsable, c'est quoi? C'est réconcilier la planète, les populations locales et les touristes. Et donc, c'est un pari, c'est un enjeu. On pourra en parler, on va sans doute en débattre. Hein. Donc, c'est un enjeu essentiel pour la réinvention du tourisme et aussi pour la création d'un monde apaisé. Parce que rappelons que le tourisme, c'est aujourd'hui 20% de l'emploi direct et indirect dans le monde. Et c'est des perspectives énormes d'emploi dans un monde qui en perd donc chaque jour. L'agriculture, c'est moins 50% d'emploi sur les 25 dernières années. Donc, le manufacturier, la machine remplace l'homme partout. Et donc, on rentre dans l'ère exacerbée du loisir et donc du service. Et donc, ça tombe bien, il y a un tas de pays qui ont besoin d'occuper effectivement donc leur jeunesse. Et dans le tourisme, on peut venir avec un seul capital, son énergie, et franchir toutes les étapes. Et donc, le tourisme a des vocations effectivement donc, à la fois de stabilisation locale et également d'exemple et de développement d'écosystèmes gagnants à destination.
On voyait par exemple derrière toi, pour ceux qui regardent RMC Story, en ce qu'on appelle en habillage, en photo, où là derrière moi, on voit des atolls. oui. avec des
au lieu de la Polynésie,
voilà, des villas sur pilotis, et maintenant des villas sur pilotis, certaines ont la piscine devant. Oui. On se dit, alors c'est très beau sur le papier, mais on se dit, finalement c'est quand même c'est quand même complètement aberrant.
Mais c'est le changement, c'est le changement de mentalité à établir.
C'est n'importe quoi d'avoir mis des piscines sur un atoll.
Tu as tout à fait raison, mais ça ne peut se faire que sur la base du volontariat. Ce qu'il faut, c'est éduquer les gens, c'est leur expliquer. Un cas concret. Parlons de l'aérien tout de suite, puisque le sujet qui fâche, évidemment, donc c'est l'avion. Les vols directs, c'est 15 à 20% d'empreinte carbone en moins. Donc déjà, commençons par expliquer aux gens que quand on prend un vol direct, c'est 15 à 20% d'empreinte carbone en moins.
Voilà, oui, mais c'est le prix. Souvent, on fait des escales parce qu'on paye moins cher.
Évidemment, sauf que quand tu vas payer l'absorption, parce que si tu es conscient de ton empreinte écologique, tu vas planter des arbres et tu vas payer ton absorption. Il vaut mieux quand même, plutôt que de planter, avoir un peu de sobriété. Et le vol direct fait partie de ces éléments-là. Ensuite, donc, tu as des compagnies aériennes qui ont des nouveaux avions, donc les Airbus Neo, qui consomment 25% de moins que les générations précédentes, tu vois. Donc, si tu prends un vol direct et sur un avion, donc, Néo, déjà, t'es à 40% d'empreinte carbone en moins, tu vois. Et donc, ça, c'est des indicateurs que, bien sûr, qu'on ne trouve pas partout et qu'il faut expliquer. Et moi, mon site, Fairmove, c'est la vocation de dire, je vais faire la grande vitrine et la porte d'entrée pour informer tous les gens qui veulent s'intéresser à la question. Et ils sont nombreux, puisque 70%, donc, des voyageurs disent avoir une conscience, donc, en responsabilité, pas seulement écologique, hein, avoir conscience aussi de l'impact local. Donc, et donc, il faut leur donner les éléments du choix.
Ludovic, mais face au micro, s'il te plaît.
De combien vous évaluez l'augmentation du prix total quand on met tout cela en place par rapport à des vols directs, des avions donc, qui économisent on doit sortir combien en plus en pourcentage?
Mais alors, tu vois, regarde, on peut sortir en plus et en moins. Quand tu économises 25% de carburant, alors c'est plutôt 20 du reste, parce que 25 c'est la notice, et dans la réalité c'est plutôt 20. Mais quand tu économises 20% de carburant en moins, le carburant, on sait que c'est entre 30 et 40% du coût du billet d'avion. Bah, immédiatement, c'est une économie.
La compagnie va fâcher un avion beaucoup plus cher qu'il va falloir amortir. Je suis pas sûr qu'il descende de 25% le prix du billet.
Non, bien sûr. Mais si tu veux, c'est pour expliquer que le tourisme responsable, c'est quoi? C'est avant tout de l'investissement en amont. Quand prenons un cas concret, tu prends un véhicule électrique, donc qui fait du safari en Afrique. Le fuel, c'est 20 000 euros par an. D'accord? Si tu fais du rétrofit, que tu transformes ce véhicule en véhicule électrique, tu vas investir donc 35 000 euros. En 18 mois, tu récupères ton investissement. Et en parallèle, la planète, effectivement, est plus polluée par ton véhicule. Les animaux n'ont plus le bruit. Le véhicule ne vrille plus. Le chauffeur n'a plus à refouler. Donc, tu additionnes les bienfaits. Et en fait, c'est ça l'idée du tourisme responsable. C'est de dire que, OK, tu as des investissements en amont, mais sur la durée, tu vas les récupérer. Quand tu fais de la géothermie, tu as un coût d'investissement de géothermie au début, mais après, tu ne fais plus l'énergie. Quand tu retraites les eaux grises, tu as un coût de retraitement, mais ensuite t'as pas à repayer l'eau, etc., etc., etc.
Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, pardon, le mouvement, notamment qui se met en place, c'est de dire, il n'y a pas de raison de prendre des avions à 300 par avion pour aller voir au QAQ des lions ou des rhinocéros sur un parc qui devient une espèce de zoo géant, quoi. Ça, il faut qu'on arrête.
T'as un courant sur la souffrance animale.
T'as un courant aujourd'hui qui est anti-tourisme de masse, de dire foutons la paix à la planète, laissons les vivre sur place, quoi.
Mais non, mais ça ne marche pas, puisque si tu veux, derrière, c'est qui prend le pouvoir, les braconniers, et derrière, effectivement, donc, de toute façon, c'est une catastrophe. Faut voir que dans ces lodges, etc., donc, les gens, ils préservent la nature de manière extrêmement forte, ils préservent les animaux, etc., donc, ils sont pas du tout dans une logique de prédation. Et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu. C'est transformer un tourisme qui a parfois été, faut bien l'avouer, un tourisme de prédation, pour en faire un tourisme de redistribution. Et c'est le prix à payer, de toute façon, pour répondre à la question du prix, c'est le prix à payer si on veut que le tourisme, effectivement, donc, continue à se développer.
Mais ça suppose une forme de marche arrière complexe, parce qu'il y a quand même des endroits dans le monde, même en Europe, si on pense à des villes comme Venise, par exemple, etc., où on a développé, où on a perdu, finalement, les raisons économiques par lesquelles on vivait, on les a remplacées par l'industrie touristique. C'est vrai dans beaucoup d'endroits. C'est vrai et c'est tellement vrai que finalement il y a des endroits où le tourisme c'est 70% des revenus et où finalement ça va demander non seulement une réflexion de la part du voyageur, mais une très grande réflexion de la part du pays d'accueil.
Alors là, je te réponds. 70%, t'as tout à fait raison. Et prenons un certain nombre de pays. Donc, prenons le Sénégal, par exemple. Donc, un pays qui n'a pas un gros, aujourd'hui, développement touristique, qui devrait en avoir un et qui l'a pas. Eh ben, comment ça se passe? Tu crées effectivement des hôtels sur un modèle effectivement de responsabilité, c'est-à-dire que tu vas faire de l'éco-bâti, tu vas faire du vernaculaire, c'est-à-dire que tu vas réhabiliter donc des bâtiments, tu vas éviter de bétonner et tu vas faire tout ce que j'ai dit donc sur la politique zéro plastique, sur le fait effectivement d'essayer de faire du zéro déchet. Tu vas surtout faire une chose, c'est que le tourisme était construit sur un modèle très fort d'importation. Parce qu'en fait, les économas, au niveau mondial, tu prends l'économat d'accord, il y avait un peu les mêmes produits partout. Et c'était l'un des reproches qui était fait au tourisme de dire, finalement, tu voyages, mais à la fin, t'as les mêmes jus d'orange, t'as les mêmes produits sur les buffets. Donc, aujourd'hui, machine arrière complète, on essaie d'avoir 80% de produits locaux. Comment tu fais? Parce qu'au départ, ils n'existent pas, ces produits, parce que s'ils avaient existé, on les aurait déjà eus. Tu vas donner de l'argent à des producteurs locaux qui vont réintroduire des produits. Ces produits, on va les faire plutôt en agriforesterie, puisque on va essayer d'arrêter donc la désertification, d'avoir effectivement donc des zones d'ombre, de remettre de la pluie, de développer la biodiversité, et donc on va de régénérer les sols, donc sans avoir besoin d'engrais, etc. Donc évidemment pour le faire, et on va faire donc par exemple de la perma derrière. Et là, ça tombe très bien, puisque la permaculture, c'est 6 emplois pour un hectare. L'agriculture industrielle, donc un gars avec un John Deere, il fait 200 hectares tout seul. Donc aujourd'hui, le goût de l'ailleurs qui avait été perdu, on va essayer de lui redonner. Et donc on va essayer de réadditionner toutes les vertus. Et dans mon modèle, à partir du moment où tu vas reproduire localement, bah tu vas aussi avoir des chaînes effectivement qui vont être en place pour distribuer les produits en question. Et finalement, il vaut mieux aller à l'île Maurice à la saison des mangues, manger des mangues sur place, plutôt qu'effectivement elles soient importées par des bateaux, dont je rappelle que les importations, c'est 50% donc de l'empreinte carbone mondiale. Donc tu vois, donc je pense qu'en fait, après regarde, à l'île Maurice par exemple, il n'y a pas de vache à l'île Maurice. D'accord? Tous les hôtels vont évidemment donc avaient à la carte donc du bœuf, de la viande rouge. D'où il vient? Même pas l'Afrique du Sud, il vient d'Australie. En moyenne, un produit fait 3000 km par exemple dans ton assiette. Et ben aujourd'hui, les hôteliers disent on vend plus de bœuf, voilà. Donc il y a plus de bœuf dans les hôtels l'île Maurice.
De la clientèle.
Et donc mais non, pas du tout, parce que tu dis il y a les crustacés, tu valorises le reste. Il y a du poulet, il y a du porc qui est excellent, etc. Et tu dis pareil pour le jus d'orange, il y a pas d'orange à l'île Maurice. Quel intérêt d'aller à l'île Maurice pour voir du jus d'orange qui arrive du Maroc? Tu vois, donc tu vas faire du jus de mangue, du jus de poire, du jus de pêche, du jus de goyave, etc. Voilà. Et donc c'est ça que j'explique, c'est que évidemment qu'il y aura des on va réajuster, qu'il y aura des choses qu'on va supprimer, qu'on va devoir développer des choses, etc. Mais à la fin du fin, peut-être qu'on va arriver à un modèle économique qui sera même plus intéressant que le modèle actuel. Alors sûrement. Évidemment, je ne parle pas de la Tunisie à 300 euros. Hein. Bon, voilà.
Non, mais Joël. Moi, tu vas peut-être me dire que je me trompe, mais pourquoi est-ce que l'éco, justement, le tourisme éco-responsable a encore cette odeur de luxe? Pourquoi est-ce que c'est pas plus accessible? Parce qu'une fois que tu as ce modèle-là que tu nous as décrit avec justement les produits locaux, etc., tout de suite, sur la carte, enfin, en tout cas dans le catalogue, c'est plus cher. Et donc, celui qui va aller vers ça, c'est celui qui peut se permettre de dire « Ah ben moi, je vais à l'île Maurice, je vois que local, etc. »
C'est vrai.
Et le pauvre, excuse-moi, non, mais
la question est bonne,
nous, on se retrouve à 400 euros la semaine en Espagne, sur la Costa Brava,
ou
en Tunisie, à Monastir. Ouais. Donc, alors, je suis désolée, ouais. Ça devrait suivre aussi, si on veut vraiment ça devrait suivre. Mais alors, la petite question que j'ai, c'est, est-ce que si ça suit, est-ce que si on descend les prix, est-ce que ça redevient pas une industrie, et est-ce qu'on se retrouve pas justement après dans le problème qu'on a quitté avant?
Alors, on le veuille ou pas, ça resterait une industrie.
Alors, plusieurs réponses à ça. Déjà, la première, c'est que c'est clair que cette industrie du tourisme a trop vécu sur le prix. Et que depuis 20 ans, on a su faire qu'une seule chose, barrer des
casser
prix.
Casser les prix.
Exactement, tu vois. C'est-à-dire que le seul marketing du tourisme, c'est de barrer des prix. Ouais, voire même, c'est même pire maintenant, c'est de mettre des réductions. Moins 50, moins 60, moins 70. Une industrie qui ne sait communiquer que par le prix, et une industrie qui meurt. Tu vois, c'est évident.
Oui, mais ça fait du volume.
Donc, alors attends. Donc, faut remettre le produit au cœur, pour répondre à la question, faut remettre le produit au cœur, effectivement, de la réflexion. Premier élément. Deuxième élément, pour garder l'île Maurice comme exemple, il y en a plein, mais puisqu'on parlait de l'île Maurice, à l'île Maurice, vous avez les plus écolos, c'est des 3 et des 4, qui justement, pour essayer d'exister par rapport aux hôtels, donc, luxe, super luxe 5, ont pris ce créneau il y a déjà quelques années. Eux, ils sont extrêmement avancés. C'est-à-dire qu'ils ont tout bon. Zéro plastique, zéro déchet, redistribution, donc, maximum, investissement dans les productions locales, 80% de produits locaux, plus évidemment, donc, de bouteilles d'eau, etc. Et donc, évidemment, fontaine avec une gourde qui était remise. Tout est en vrac pour de manière, effectivement, donc, à avoir moins de gaspillage que des produits locaux, etc. Et donc, tu crées un état d'esprit, et ces produits-là, en fait, ils sont relativement accessibles. Ça reste de l'île Maurice, donc on est plutôt effectivement donc en entrée donc à des prix donc à 950 euros, hein, donc évidemment. Mais à un moment donné, la réalité de ce qu'on est en train de se dire, c'est que sans doute il faut voyager moins souvent. Mais mieux, c'est comme le bon vin. À un moment donné, tu peux pas dire au gars, ah ben finalement votre vin est cher parce que mais il est très bon. Il y a un juste prix. Et dans le tourisme, on avait perdu le juste prix parce qu'en fait personne ne peut dire que ce que vaut une semaine dans un hôtel parce que ça existe à tous les prix. Et en plus, on a créé une angoisse chez les clients qui se disent toujours, mais est-ce qu'il y a pas moins cher,
c'est ça.
Tu vois. Et donc en fait, on n'achète même plus de produits, on achète un prix. Tu vois, et le gars, il dit, moi, j'ai eu moins 70. Mais tu dis, moins 70 de quoi? Ah ben, il dit moins 70.
Oui, mais c'est parce qu'on a voulu, on a voulu maintenant aller partout, faire en sorte que la planète se déplace, se découvre, que tout le monde puisse aller de tous les côtés.
Besoin,
à des moindres prix. Alors, paraît-il, c'était bon pour tout le monde, bon pour le libre-échange, bon pour l'économie, quoi.
Non, mais on a démocratisé l'accès au voyage. Et Jacques Maillot, donc, qui a été un chroniqueur célèbre ici, pendant des années, c'est lui qui m'a fait rentrer la première fois dans cette émission. Donc, évidemment, était le pape de cette démocratisation et c'était formidable parce qu'il a permis à plein de gens.
En pleine machine arrière.
Non,
alors.
Pas machine arrière. On apporte une dimension nouvelle qui est effectivement de dire oui, mais il y a des contre-coups négatifs. Comment on gère les contre-coups en question? Le fait de partir moins souvent, mais de rester plus longtemps. Le fait de supprimer des vols qui n'ont aucun intérêt.
Exemple.
L'exemple typique, c'est évidemment le Ryanair, donc Limoges, Édimbourg. Comment ce vol se vend? Est-ce que les gens de Limoges voulaient aller à Édimbourg? Ils savaient même pas où c'était. Est-ce que les gens d'Édimbourg voulaient aller dans le Limousin? Ils savaient pas non plus où c'était. Bon. Est-ce qu'on arrive à vendre des billets en disant c'est super Édimbourg? Non. On dit 29 euros. On fait des 4 par 3 pour dire 29 euros. Résultat des courses, on vend des billets qui sont pas du tout au prix auquel ils devraient être vendus. C'est la région qui subventionne, donc c'est avec les impôts. L'argument qui est mis en avant, c'est de dire, mais comme ça, on va faire venir les Écossais, donc dans le Limousin, et puis ça va enrichir le Limousin. Mais ce qu'on dit pas, c'est que les gens du Limousin, ils vont aussi en Écosse, et donc en fait, ils se croisent, et à la fin, c'est somme nulle. Et donc, ces vols-là ne servent à rien. Si tu veux, exemple identique, quand tu fais du 39 euros pour aller à Lisbonne te bourrer la gueule pendant deux jours, parce que les millennials qui donnent des leçons à tout le monde sont les premiers à prendre ces vols-là pour aller passer des week-ends à se marrer, ils ont le droit de le faire, mais ces vols-là en fait ne servent pas à grand-chose, que tu pourrais le faire chez toi. Donc le tourisme doit se réinventer sur l'hôtel, que quand il va c'est pour s'apprendre intelligent, quand il va c'est pour apprendre des choses, quand il va c'est pour manger autre chose, quand il va c'est pour avoir l'ailleurs et toutes les dimensions de l'ailleurs, pas pour retrouver ce que t'as chez toi. Et donc ce tourisme-là est en train de se construire, et pour ça, il faut évangéliser, il faut expliquer en permanence, c'est ce que je fais aujourd'hui.
Donc, il y a bien sûr un cahier des charges et des labels, mais regardez pour le bio qu'on a mis en place. Il y a tellement de labels différents que tout le monde va se mettre un label
mais
bio.
C'est devenu des escroqueries.
Ouais, oui. Comment on va faire pour contrôler, en fait, vous avez raison de mettre ça, mais tout le monde va le faire.
Tout le monde
comme
va
pour le
faire
bio,
et
voilà. Il y aura le bio truc.
Attends, c'est-à-dire que retraiter les eaux grises, avoir de l'énergie propre, investir localement et avoir 80% de produits locaux, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et donc, ceux qui le font, il faut les valoriser. Et nous, et la question est très bonne sur le label, moi, j'ai créé Fairvous parce que justement, tous ces labels, personne ne les connaît. Il y a 50 labels différents qui analysent les hôtels. Par contre, ils font des vrais audits. C'est-à-dire que là, c'est pas un gars, effectivement, donc, qui passe comme ça et qui goûte les produits. C'est quelqu'un qui passe 2-3 jours et qui va aller inspecter, parce que c'est un vrai travail de pouvoir auditer, effectivement, donc, un hôtel. Moi, je récupère donc les audits en question, et mon objectif, c'est de faire le métalabel avec Fairmove, justement, pour indiquer les hôtels qui sont les plus avancés. Et donc, je note un peu tous les critères et je rends donc accessible l'information au plus grand nombre.
Merci monsieur Nadir, merci Jean-Pierre d'être passé par j'ai toujours un plaisir de t'avoir avec nous. On se retrouve demain 9h midi, le docteur Taureau sera de la partie aussi avec Sarah Salman l'avocate, Laurent Magnien qui est consultant en tourisme en aéronautique, nous serons avec Kauter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, et midi moins 25 Julien Odoul, député Rassemblement National de Lyon.
C'est pour ça que vous ne m'avez pas invité.
Passez une bonne journée. N'oubliez pas les podcasts pour retrouver les GG sur l'appli RMC et sur notre site internet rmc.fr. Bonne journée et à demain 9h.